La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.
Rebonjour à toutes et à tous, 17h45, nous suivons le programme de cette première journée du 29 août 2022. Rencontre des entrepreneurs de France avec, bien évidemment, beaucoup de vigilance quant à une rentrée qui s'annonce quand même, dans une certaine mesure, sous haute tension. On va parler bien sûr logement et surtout construction de logements neufs qui fait cruellement défaut dans notre pays. Car comme on le sait, c'est le seul moyen de décompresser la demande dans l'ancien parce que ça devient vraiment très compliqué de se loger dans le pays. Et le logement, c'est quand même le premier marqueur social des Français. Pour en parler, je suis accompagné de Didier Belliganien. Bonjour Didier.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers. Première question. Voit-on, quand on voit les chiffres, on peut le dire alarmants et même assez inquiétants, du stock aujourd'hui de logements neufs qui est passé au-dessous des 7 mois. On est même pratiquement à 6 mois, ça commence à devenir très compliqué, quand on sait d'ailleurs que pour reconstituer une offre, il faut un temps long. Mm-hmm. Question, comment aujourd'hui la Fédération se positionne-t-elle et arrive-t-on avec notre nouveau ministre du Logement, Olivier Klein, mais aussi Christophe Béchu, qui l'accompagne, qui sont en plus des élus locaux, voit-on poindre peut-être une lueur d'espoir?
Est-ce qu'on voit poindre des lueurs d'espoir? Avant de répondre directement à cette question, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bien sûr, un promoteur, c'est avant tout un entrepreneur. Hein, on est à la REF. Et les entrepreneurs, c'est d'abord de l'optimisme, de la volonté, de l'agilité. Donc, face à ce constat, depuis déjà de nombreux mois, ou de mois après mois, ou trimestre après trimestre, on voit le nombre d'offres mis sur le marché de moins en moins important, et comme vous le disiez, un stock qui se réduit à 6 mois ou un petit peu plus, mais bon, c'est quand même très 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 bas. Nous avons porté un certain nombre de mesures justement pour essayer de redynamiser le marché de l'immobilier et du logement, et c'est tout le sens de l'appel de Strasbourg qu'on a lancé lors de notre congrès en juillet dernier.
Alors l'appel de Strasbourg, ça a été un moment important.
J'ai presque envie de dire que c'est un moment fondateur pour les mois et les années qui viennent, où c'est pas seulement un catalogue de mesures, c'est aussi une volonté de travailler collectif, de construire une stratégie nationale du logement et d'embarquer tous les acteurs de l'acte de construire dans cette stratégie nationale du logement, que ce soit les bailleurs sociaux, les entreprises du bâtiment, l'USH, etc., etc. C'est vraiment cette volonté de « allons-y, quoi ». Fixons-nous un objectif, qu'est-ce que l'on veut vraiment, quel est l'objectif collectif que l'on se fixe, que la nation se fixe, et mettons en œuvre les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est vraiment le message que l'on porte.
Est-ce que vous arrivez à décrypter finalement une politique du logement avec la nouvelle mandature,
pas encore.
Le nouveau mandat? Parce qu'on a du mal à décrypter.
Absolument.
La volonté.
Pas encore. On reste encore sur notre impression du précédent gouvernement où le logement est devenu un petit peu la variable d'ajustement d'autres politiques. Et quand je dis d'autres politiques, il y en a deux. Il y a la politique budgétaire, puis la politique environnementale. Et le gouvernement est toujours en train de faire des choix, soit budgétaires, soit environnementaux, qui portent préjudice à la politique du logement. Donc on veut sortir de ce corner. Et c'est encore une fois, enfin je me répète, mais c'est un peu le sens de cette stratégie nationale en se disant, refixons-nous les objectifs, ce qui fait qu'on ne devient plus une variable d'ajustement, mais on a une vraie politique.
Alors au cœur de l'appel de Strasbourg, il y a un élément important, c'est d'essayer de, je cite, réenchanter l'acte de construire ou de le rendre plus noble. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que finalement les premiers exposés dans cette équation, difficile parfois à résoudre, ce sont les élus locaux?
On a un vrai. Enfin, les élus locaux ne sont que l'image de leurs concitoyens. Et on a un refus de l'acte de construire de la part de nos concitoyens. C'est quelque chose qui existe déjà depuis de longues années, mais on sent que ça devient de plus en plus difficile. Et nos concitoyens ne veulent plus voir de chantiers, ne veulent plus voir de grues dans leur environnement. Ils sont contre la construction de logements. Donc, effectivement, il faut qu'on essaye de réenchanter. Alors, il y a plusieurs manières de réenchanter les choses. Premier élément, c'est peut-être de donner les moyens aux élus. C'est pour ça qu'on est sur une idée de réallouer une partie de la TVA immobilière aux élus. On a senti, on était la semaine dernière aux entretiens d'Inchoseta, et que certains participants élus étaient assez attentifs à cette idée. Et l'autre élément, c'est aussi le sens du livre qu'on a produit, Embellisseur de ville, l'embellisseur de vie, c'est aussi donner à voir et montrer que l'intervention des promoteurs permet de réenchanter la ville aussi, et donc de montrer que pour nos concitoyens, pour les élus, il y a aussi une forte valeur ajoutée dans l'acte de construire.
Alors, cet acte de construire, on l'a bien compris, et c'est un peu la clé qui désengorge la demande de logements anciens. Car on voit aujourd'hui, parfois j'ose dire le mot, une certaine forme de spéculation sur les loyers ou sur les prix qui devient intenable. On voit même des zones où les étudiants changent de projet professionnel ou changent d'école parce qu'ils ne peuvent pas se loger, qu'on n'a pas toujours les parents capables de louer un appartement. Surtout qu'on ne trouve plus de locations vides. On n'a que des meublés, on a un logement de précarité. Quand on voit cette équation-là, est-ce qu'à votre avis, il y aurait une tentation du gouvernement de reprendre la main comme une espèce de pouvoir régalien sur l'aménagement du territoire? Ou est-ce que, selon vous, il faut quand même que les élus aient la main sur l'aménagement de leur territoire, à condition qu'on leur donne des moyens?
Nous, très clairement, on est sur l'idée de donner les moyens aux élus. On n'est plus dans une logique où on est dans une politique descendante, où l'État dit ce qu'il doit faire. De toute façon, il n'a plus les moyens, il a perdu en compétences aussi. Avant, il y avait les DDE, il y avait les services de l'État qui étaient très performants au niveau de l'urbanisme, par exemple. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être dans une logique descendante où l'État dit ce que les collectivités doivent faire. On est plutôt à l'inverse. L'élu connaît son territoire, sait ce qu'il a à faire. Mais on doit l'aider. On doit l'aider en moyens financiers, on doit l'aider aussi en portant les projets pour embarquer les populations qui sont alentour et faire en sorte qu'il y ait de nouveau une appétence pour l'acte de construire.
Alors, on parle d'acte de construire et pourtant le gouvernement, les précédents gouvernements, je pense à Emmanuel Wargon qui avait chargé François Rebsamen d'un rapport qui était extrêmement intéressant.
Absolument.
Quand on voit la façon dont a été traduit en pratique le rapport Rebsamen, qui était vraiment assez intéressant sur le plan notamment de la maîtrise et de la libération foncière, on peut se poser vraiment la question de savoir pourquoi finalement ce rapport a-t-il eu lieu, pour avoir si peu d'effets concrets. Dans les mesures du rapport Rebsamen, quelles sont les mesures que vous souhaitez à la tête de la Fédération, avec la Fédération, voir s'appliquer?
Il y a beaucoup des mesures que l'on portait qui se sont retrouvées dans le rapport Rebsamen. Je ne veux pas toutes les citer, mais il y a une ou plusieurs mesures qui me semblent vraiment importantes. C'est notamment les mesures fiscales et sur la rétention foncière, c'est-à-dire d'inverser le régime de taxation.
Ce qui serait vraiment intelligent, en fait.
Je trouve ça absolument génial.
C'est fou,
parce qu'aujourd'hui, on favorise à travers la fiscalité la rétention foncière. Alors, on sait bien qu'une politique fiscale est toujours pour impulser des comportements. Ouais. Et là, c'est un comportement qui pousse à la rétention foncière, puisque plus on garde un bien, moins on est taxé. Nous, on dit qu'il faudrait un peu faire l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un vend son bien dans les années qui viennent, il n'est pas taxé, et plus il attend, plus le taux de taxation augmente. C'était une mesure qu'on portait, qui a été reprise dans le rapport Rebsamen. Ensuite, il y a quand même eu, soyons positifs aussi, il y a aussi eu, on a porté à travers ce rapport de nombreuses mesures, notamment contre les recours, la multiplication des recours, etc., etc. Et c'est des décisions qui ont été prises avec la chancellerie aussi pour faciliter ou pour accélérer en fait le temps de traitement des recours contre les permis de construire ou les refus également de permis de construire. On a quand même eu des avancées notables. On n'est pas au bout du chemin. Mais ça crante quand même un certain nombre de choses.
Quel est le moral aujourd'hui de vos adhérents?
Je vous le disais, ce sont des entrepreneurs, donc ils vont se battre. Ils ont de l'énergie, ils trouvent des solutions, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ça n'est pas du pessimisme, je dirais plutôt que leur position, leur état d'esprit, c'est quand même un peu d'attentisme. C'est-à-dire que dans certains cas, des projets sont mis un petit peu en veilleuse, le temps de voir comment les choses vont évoluer. Donc il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de défaitisme, il y a plutôt de l'attentisme.
Alors, question, quand on voit aujourd'hui, on va dire, je ne vais pas revenir sur le même poncif, mais cette inflation, entre guillemets, normative, qui a beaucoup pesé sur les promoteurs, la RE2020, mais toutes les règles aussi d'urbanisme qui pèsent. Aujourd'hui, il faut une armée de spécialistes lorsqu'on prend un dossier en main. Est-ce que vous partagez cette idée que, souvent courante, dans laquelle on dit qu'il n'y a pas de foncier dans notre pays? Or, quand on voit certaines friches foncières, qu'elles ont une disponibilité, qu'on voit aussi l'émancipation et le développement des villes moyennes, on se dit qu'il y a un trésor foncier. Qu'est-ce qui fait, Didier, qu'à un moment donné, on ne libère pas le foncier? Est-ce que c'est qu'une volonté politique? Ou est-ce que ce n'est que politique? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être changer notre mode d'habiter. Je prends par exemple la densité, la hauteur, la verticalité. Quelle est votre position ?
J'ai envie de dire que tous les éléments de la réponse sont dans votre question. C'est vrai que je pense que c'est clair, il n'y a absolument pas de problème de foncier. C'est un problème de foncier constructible, rendu constructible. Voilà. Le foncier, il existe, on le trouve, on peut le transformer, etc. etc. Mais après, oui, il faut changer les manières de faire. En plus, dans un contexte où on a le ZAN maintenant, la zéro artificialisation nette, donc la densité devient un vrai sujet. Et il faut que les élus acceptent de densifier, ce qui n'est pas le cas. Bien au contraire, on a fait une petite enquête, ça, c'est pas une valeur d'étude, mais une enquête sur les PLU, et en fait, les PLU ne sont utilisés qu'à hauteur de 65%. Et c'est fréquent qu'un élu dise, ben voilà, c'est votre immeuble, oui, c'est intéressant, mais il y a 5 étages, il faut
monter. Donc si on construisait à 100% des PLU, on pourrait régler 30%.
On pourrait régler 30%.
C'est énorme.
Absolument, oui. Je ne veux pas parler de mes petits camarades, mais oui, la Fédération des ESH a fait aussi une étude sur le foncier, comment valoriser le foncier. Et dans l'annexe, il y avait, alors ça n'est porté que chez un bailleur social, mais il y avait deux tableaux. Un premier tableau, c'est ce que permettaient les documents d'urbanisme et ce que le bailleur a véritablement réalisé. On était à une chute de 25%. Nous, c'est 35%. Mais il y avait un autre tableau qui montrait toutes les opérations qui n'ont pas pu se faire parce que les élus n'ont pas voulu le faire. Et ça représentait 50% de ce que, des premiers projets qui avaient été réalisés par le bailleur social. Vous voyez, on n'est pas les seuls à le dire. Ce n'est pas une vision dogmatique de la FPI. Pas du tout. C'est une vraie réalité. Et tous les constructeurs, que ce soit les promoteurs immobiliers ou les bailleurs sociaux, sont confrontés à ce blocage politique. Donc, ce qui manque, ce n'est pas les fonciers. Ce qui manque, ce sont des permis de construire. Ou, comme le dit mon président, ce qui manque, c'est des stylos pour signer les permis de construire.
Exactement. Il faudrait que les stylos changent demain.
Il faudrait que les stylos changent demain. Absolument.
Alors, dernière question. Justement, on parlait tout à l'heure, j'évoquais le stock aujourd'hui.
Oui.
Et je le compare à la pression démographique. En 40 ans, il y a 16 millions d'habitants supplémentaires. Et quand on voit le nombre d'autorisations de permis de construire, on a quasiment sur les mêmes chiffres. Donc, comment aujourd'hui ajuster finalement le flux de population par rapport à la construction ? Combien faudrait-il construire, Didier, de logements neufs pour arriver à réguler et avoir une fluidité sans forcément compresser le marché ancien ?
On est toujours sur ce chiffre de 500 000 logements.
C'est 500 000 logements.
C'est notre chiffre, c'est 500 000 logements.
Et actuellement,
on est en construction. Si on prend les chiffres de construction, on a des chiffres qui sont... Et l'État s'est enorgueilli en disant, ben, vous voyez, on a 500 000 permis de construire, mais il y a beaucoup de projets qui ne se font pas. Oui. Et on tourne plutôt autour des 380 000.
On est loin du résultat.
On est loin du résultat. Donc c'est pour ça que dans nos 500 000, on a 400 000 pour répondre à ce que vous disiez, là, l'évolution de la population, la réduction du nombre de ménages par logement, et puis un rattrapage du déficit de 100 000 logements par an, puisqu'on considère que le déficit est de 1 million de logements. Et on a bien conscience qu'on ne pourra résorber ce déficit que sur une dizaine d'années. Et d'ailleurs, la preuve qu'il y a un vrai déficit, c'est que quand on regarde les rapports de la Fondation Abbé Pierre, on voit que le mal-logement s'accroît d'année en année. On était à 1 million, il y a peut-être 10 ans.
Et la primo-accession accède de plus en plus tard à la propriété quand elle y accède.
Tout à fait, absolument.
Avec l'évolution, notamment les problèmes de taux d'intérêt. Dernière question d'agenda. Quelles sont les grandes dates de la rentrée pour la FPI ?
Les grandes dates de la rentrée, c'est d'abord de travailler avec le gouvernement, d'échanger avec notre nouveau ministre et de continuer à apporter l'ensemble de nos propositions de l'appel de Strasbourg.
On suivra toujours, bien sûr, avec beaucoup d'attention et de vigilance, l'activité de la Fédération professionnelle des promoteurs immobiliers, les promoteurs immobiliers nécessaires pour décompresser, je le répète, sur l'ancien, car c'est un vrai, vrai sujet d'équilibre et de fluidité du marché du logement, dont je rappelle quand même, c'était Jean Castex qui avait dit que c'était un besoin primaire, besoin premier. Il serait temps, justement, en termes de TVA, qu'on y pense.
Absolument,
un peu, puisque le sucre, c'est 5,5%, et le logement, c'est une TVA plein pot. Non, mais ça fait partie
des aberrations fiscales de notre gouvernement.
Merci Didier Benigalien. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers, avec qui on partage beaucoup d'aventures radiophoniques, mais pas que, pour suivre dans les territoires. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos émissions. Et je rappelle d'ailleurs que nous sommes ici encore demain, le 30, ici à l'hippodrome de Longchamp. A tout de suite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF. les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.